fils vous comble de joie dans vos familles, votre entourage, vos amis, vos services, également dans votre travail. Que le Seigneur vous accompagne dans vos difficultés de tous les jours et que chaque jour que Dieu fait, vous puissiez être animé, animé de la joie de l'Évangile. Alors cette année est comme l'année dernière, j'ai envie de dire même comme plusieurs années, une année encore difficile, l'année 2026, une année volatile, incertaine, imprévisible, encore l'actualité récente, cette semaine ou la semaine dernière. Nous l'avons vu notamment du côté du continent américain, où se jouent des choses. Nous ne pouvons pas deviner ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an. Nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer dans 3 mois, dans 1 mois, ni même la semaine prochaine, ce que l'actualité encore va faire. Il y a ce passage qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et plus que jamais, quand l'actualité s'emballe, où peuvent naître nos angoisses, nos inquiétudes, plus que jamais, ce verset biblique, c'est une ancre, un guide spirituel, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alors certes, le combat, il est dans notre chair, il inclut aussi cette part de notre corps matériel, mais aussi parfois de notre propre volonté, mais le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous invite non pas à combattre ceux qui, comme nous, interagissent dans ce monde, mais au contraire ceux ou celui qui est à la manipulation de ce monde. Nous connaissons souvent ce passage par cœur et il nous rappelle que les êtres humains ne sont pas la racine ultime du combat, mais souvent le lieu où ce combat se manifeste. Chers frères et sœurs, dans nos afflictions, dans nos combats ne sont pas dirigés vers et contre les hommes, mais contre celui qui manipule et qui corrompt les hommes. Nous avons une dague à portes ouvertes quand nous avons ces persécuteurs qui persécutent les chrétiens, qui persécutent nos bien-aimés. Nous disons, nous ne sommes pas contre, mais nous sommes pour Jésus. Nous ne sommes pas contre Kim Jong-un, nous ne sommes pas contre les djihadistes en Afrique subsaharienne, nous ne sommes pas contre les gouvernements qui persécutent les chrétiens, mais nous sommes pour que Jésus aille leur parler, aille les toucher et puisse les convertir et qu'ils puissent se repentir. Notre combat, chers frères et sœurs, même culturel, n'est pas dans le militantisme, dans la plainte ou dans la revendication, mais notre combat, il est toujours à porter Jésus-Christ, mais aussi dans un combat spirituel au travers de la prière. Je voudrais vous parler de ce frère David, qui est un chrétien indigène en Amérique latine. Il est né dans une communauté qui pratique le culte des esprits, les esprits des anciens. Nous sommes dans un contexte animiste, tribal. Et notre frère David est le fils d'un mammos. Un mammos, dans les tribus indigènes, c'est un chef spirituel. Alors souvent, les mammos sont souvent des notables de la ville. Des notaires, des maires, des avocats, des gens importants, des gens d'influence, qu'on appellerait dans le terme grec ancien des patrons. Des gens qui ont cette influence-là et qui peuvent décider de comment vont les choses. Et bien souvent, ces élites de ces communautés-là sont aussi ce qu'on appelle du coup les mammos, les chefs spirituels et religieux de cette communauté animiste en Amérique latine. Notre frère David est le fils et le descendant de toute une lignée de mammos. Et lui qui était destiné lui aussi à devenir mammos, au travers d'une réflexion de conscience, est-ce que c'est bien la vérité ? Et ayant rencontré Jésus-Christ, décida de s'intéresser à ce christianisme. Il rencontre Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu unique qui a créé la terre, le ciel et les cieux, et qui a pris ses péchés à la croix. Ainsi, par un travail de conscience et de conviction, David abandonna ses vieilles idoles et se consacra entièrement à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il fut rejeté, persécuté, menacé. Et dans ces circonstances-là, il pourrait y avoir un combat de la chair vis-à-vis de sa famille, de sa communauté. D'ailleurs, une chose que font d'ailleurs les animistes quand ils ont des chrétiens, c'est de débarrasser leur maison, de brûler leur maison et de tout recouvrir de végétaux. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que dans la culture animiste, c'est la crainte des esprits. Il faut tout faire pour satisfaire les esprits. Mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous les mettez en colère, et si vous les mettez en colère, il y aura des fléaux. Ainsi donc, vous l'avez compris, ce n'est pas une culture de la grâce, de l'amour et de la paix, mais c'est une culture de la peur du Dieu. En Jésus-Christ, nous n'avons pas peur de Dieu, mais au contraire, nous sommes avec Dieu. Nous avons une crainte respectueuse de l'Éternel. Nous l'aimons et nous revendiquons sa souveraineté et sa gloire. Mais au travers de son Fils Jésus-Christ, nous savons qu'il nous aime. Nous connaissons la valeur que Jésus a rachetée à la croix. Et nous l'en remercions et nous le glorifions pour cela. Et c'est ce Dieu-là que David a choisi. Et c'est ce Dieu-là que les mammons et les animistes combattent. Alors, David nous a appris quelque chose il y a quelques années en arrière. Il nous disait, avant, les animistes, pour chasser les chrétiens qui attiraient le mauvais esprit, ou mettaient en colère les communautés, ont vu que c'était inefficace. Les chrétiens partaient, mais il y avait de plus en plus de conversions. Et du coup, les mammons, en se réunissant, ont trouvé une solution bien plus grave spirituellement. Ils ont dit, nous allons continuer notre travail de sape, de les persécuter, mais nous allons prier les esprits, que ce soit eux directement qui aillent les persécuter, qui aillent les harceler. Et là, vous comprenez qu'il y a une dimension spirituelle. Vous avez compris que ces esprits-là ne sont pas catégorisés du côté de Dieu, mais du côté de l'ennemi, de celui qui tente de nous décourager, de nous détourner de la foi. Alors, c'est Romains 8, verset 38-39, dans lequel, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est là, chers frères et sœurs, toute une parole qui nous encourage que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. D'ailleurs, nous citons aussi, au travers de tout ça, nous appelons aussi au corps du Christ, quand nous citons souvent 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 26, « Ainsi, le corps n'a pas qu'un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, et si un membre du corps souffre, tous les membres du corps souffrent avec lui. » Cette unité n'est pas théorique, elle est vécue, parfois dans les épreuves de la vie, parfois dans la persécution, mais toujours dans une solidarité spirituelle et profonde, au travers de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Alors nous allons lire ce passage, hop, tout de suite. Au reste, donc on est dans Éphésiens, excusez-moi, chapitre 6, du verset 10 à 20. Alors ce qui est intéressant avec Éphésiens, c'est que Paul, c'est ce qu'on appelle une épître universelle, c'est-à-dire c'est une épître, même si vous ne connaissez pas complètement le contexte pour lequel elle a été écrite, c'est un épître qui nous parle et qui nous nourrit directement. Et ce qui est intéressant avec Éphésiens 6, c'est que c'est un livre très thématique. Chapitre 1, vous avez un thème, chapitre 2, vous avez un deuxième thème. Donc c'est un traitement thématique enseigné par l'apôtre Paul. Et donc, nous arrivons à la fin de cette épître, au verset 6, au chapitre 6, et je vais lire en version seconde de 1910. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Alors, cette épître, parlons-en, adressée aux Éphésiens, mais aussi aux autres communautés autour, hein, on est à destinataire de croyants qui sont à la fois issus du judaïsme. Vous savez que Paul, quand il rentrait dans une ville, automatiquement, il allait dans un temple juif pour prêcher l'évangile. Et il s'adresse également à des chrétiens issus d'un arrière-plan de paganisme, hein, donc de païennage. D'ailleurs, c'est à Éphèse qu'on a la fameuse statue Artémise, hein, qui est prônée dans la ville. Et donc, qui dit deux communautés, deux arrière-plans, réunis en une, dit aussi parfois tension et friction. Et c'est ainsi que l'objet de cette épître, qui est longue et profondément thématique, est de rappeler une vérité fondamentale. Christ unit tous les croyants en un seul corps. Et il n'y a plus de distinction, ni de race, ni d'arrière-plan religieux, culturel. Nous voyons comme thème l'identité du croyant, le salut par la grâce, l'unité de l'Église corps de Christ, la maturité et l'évolution spirituelle et une vie transformée et le combat. Le combat, l'unité qui s'inscrit dans le ministère de Portes Ouvertes. Alors dans ce que nous venons de lire, il y a cette phrase, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et je m'arrête sur deux termes, le mauvais jour et l'appel à tenir ferme. Et ce verset, ce passage, s'inscrit complètement et directement dans une dynamique d'unité en Christ, parce que nous sommes un seul corps et que nous appartenons à Christ. Et Paul ici met l'accent sur ces deux expressions fortes, dans le mauvais jour et tenir ferme. Et dans le mauvais jour, Paul ne nie pas la réalité du mauvais jour. D'ailleurs, la parole de Dieu n'a jamais dit que nous vivrions tous une vie parfaitement accomplie, avec paix, sécurité. Mais il dit, des mauvais jours, il y en a eu, il y en a aujourd'hui, et il y en aura encore. Mais la parole de Dieu, la foi chrétienne ne promet pas l'absence d'épreuves, mais elle nous équipe pour les traverser. Et c'est d'ailleurs tout le sens de ma bonne année tout à l'heure, de vous annoncez qu'il va y avoir encore pour l'humanité, mais aussi pour nous les chrétiens, des temps difficiles. Des temps où nous allons devoir nous réfugier de plus en plus dans la parole de Dieu. Et c'est le cas pour nous, Église libre, mais c'est encore plus le cas pour l'Église persécutée. J'aimerais aussi vous parler de se tenir ferme après avoir tout surmonté, qui est l'exhortation, l'encouragement, le but de la vie chrétienne. Tenir ferme malgré les épreuves. Dans le mauvais jour, à chaque fois que nous serons tentés de combattre par la chair et le sang, à chaque fois que nous serons tentés de pécher, Dieu nous appelle, dans le mauvais jour, à tenir ferme. Alors, un exemple d'un mauvais jour. Payang et Lavi. Payang, c'est une épouse. Lavi, c'est son mari. Qui sont tous les deux un couple qui se sont convertis au christianisme il y a quelques années en arrière. Et lors de leur conversion mutuelle, ensemble, ils ont manifesté leur christianisme dans leur communauté. Ils ont vécu des temps un peu difficiles, des railleries, des moqueries, de l'hostilité. Rien qui ne les a absolument perturbés. Bien sûr, ils ont aussi vécu l'hostilité de leur propre famille, particulièrement les parents de Payang, de l'épouse, qui se sont opposés à leur foi, à leur conviction chrétienne et évangélique. Alors qu'un jour, les parents de Payang décident de vouloir s'accaparer un terrain le couple, Payang et Lavi, objecte tout simplement de pouvoir leur donner la pleine jouissance d'un bien qui, eux, leur permet d'avoir des ressources pour eux et leur famille. Je voudrais dire ici que Payang et Lavi ont 3 enfants. Et voilà que par hostilité antichrétienne, les parents de Payang ont empoisonné une bouteille à l'insu de la famille, destinée à assassiner Payang et Lavi, leurs propres enfants. Malheureusement, ce sont les enfants qui ont bu la boisson. Les enfants ont été hospitalisés, affreusement malades, parfois jusqu'à la mort. Et Payang et Lavi, à l'hôpital, ont prié avec ferveur pour que le Seigneur les en délivre. Il y a 2 bonnes nouvelles. Les 2 plus jeunes enfants ont survécu. Il y a le jour mauvais. L'aîné est décédé des suites de cet empoisonnement, lui qui avait consommé le plus de la boisson. Comment concevoir que ses propres parents vous empoisonnent pour vos propres convictions? Comment concevoir que ce sont les petits-enfants qui sont victimes des grands-parents? Voilà un jour mauvais. Mais aussi voilà l'exécution de ce verset, tenir ferme après avoir tout surmonté, car gloire à Dieu, Payang et Lavi n'ont pas fait de ce cas pour abandonner Jésus-Christ. Payang et Lavi n'ont pas diminué ni leur foi, ni leur consécration. Ils n'ont pas lutté contre la chair et le sang en se vengeant, mais ils ont appelé à prier contre l'ennemi. Ils ont prié eux-mêmes pour que le Seigneur les fortifie. Et ce drame, bien sûr, n'est pas l'œuvre de Dieu, mais il est l'expression du mal que Christ a vaincu à la croix et qui cherche encore plus que jamais à détruire, à voler, au travers du mensonge, au travers de ses actes ignobles. Je rappelle ici que nous pouvons prier pour que les parents de Payang puissent rencontrer Jésus, se repentir et se convertir. D'ailleurs, malgré l'affliction, Payang et Lavi ont adopté une attitude d'obéissance à Jésus. Ils ont dit, nous pardonnons aux grands-parents qui ont fait ce geste-là. Nous leur accordons notre pardon. Ça ne veut pas forcément dire qu'au fond d'eux, ils n'ont pas un peu d'amertume. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont complètement guéris. Mais ça veut dire que par obéissance de Christ, parce que Christ nous a pardonné à la croix, automatiquement aussi, on déclarait le pardon sur les parents de Payang. Mais quelle douleur! Quelle affliction! Alors maintenant, il est dit dans la parole de Dieu, revêtez les armes de Dieu. Hein. Je relis ce passage-là qui nous dit, tenez donc ferme, encore une fois, réitéré, hein, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, toutes les armes citées par Paul dans ces versets-là ne sont bien sûr pas symboliques de la violence humaine. Ce n'est pas revêter les armes de Dieu et aller combattre la chair et le sang, bien au contraire. Mais d'une protection spirituelle accordée à ceux qui demeurent en Christ. Payang et Lavi, au cœur de leur souffrance, ont tenu ferme, non par leur propre force, mais en s'appuyant sur ces armes spirituelles que Dieu met à disposition. Et je ne vais pas aujourd'hui vous décrire chacune des armes. Ça serait long, complexe, et vous trouverez de nombreuses exhortations ou enseignements qui pourront vous décrire arme par arme et pourront vous encourager sur ces différentes armes. Il est fréquent d'ailleurs que dans de nombreuses prédications, on associe les armes de Dieu décrites par Paul à celles de l'image du soldat romain. Probablement parce qu'à l'époque où Paul écrit cette épître, il est lui-même enchaîné et il a lui-même probablement des gardes romains. C'est encourageant, ça peut être édifiant. Mais cependant, j'aimerais vous rappeler que Paul, quand il parle, comme je vous ai dit, quand il va dans les synagogues, il ne fait pas des références culturelles, mais il fait des références cultuelles. Et fait notamment des références scripturaires. Cet exemple, c'est quand il va dans les synagogues, il n'a pas le Nouveau Testament, il n'est pas encore écrit. Mais il utilise la Torah, il utilise l'Ancien Testament. Et il révèle dans les Écritures que Jésus était déjà annoncé. Il révèle que ce Messie qui est mort à la croix à Jérusalem et qui est ressuscité le troisième jour était déjà annoncé. Ainsi donc, quand nous avons, au travers de ce tableau, la ceinture pour vérité, la cuirasse de justice, le casque du salut, etc., quand nous avons ces équipements-là, elles ne sont, pour Paul, qu'une image de ce qui était déjà annoncé. Par exemple, la ceinture de vérité, vous retrouvez dans Ésaïe 11, au verset 5, le passage suivant. « La justice sera la ceinture de ses reins et la fidélité la ceinture de ses flancs. » La cuirasse de justice, le casque du salut, dans Ésaïe 59. « Il se revêtit de la justice comme d'une cuirasse et il le mit sur sa tête, le casque du salut. » Les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile, qu'il soit beau les montagnes, les pieds de celui qui porte des bonnes nouvelles. Le bouclier de la foi. Ne crains rien, Abraham, je suis ton bouclier, mais toi, Seigneur, tu es un bouclier qui m'entoure, dans Genèse 15 ou dans le psaume 3, verset 4. Et puis l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, nous le trouvons dans Ésaïe 11, il frappera la terre de la verge de sa bouche, et également dans Ésaïe 34, verset 5, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Et vous pouvez trouver encore d'innombrables références à ces différentes armures. Elles sont présentes dans l'Ancien Testament. Et Paul peut-être a pris cet exemple, voit un soldat romain, et se dit, mais c'est déjà annoncé, l'armure du croyant est déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Mais une bonne nouvelle, chers frères et sœurs, pour païens, pour David et pour nous tous, cette armure, il n'est pas appelé à s'en revêtir un par un. Il n'est pas appelé de payer cette armure spirituelle pour l'avoir. Elle nous est déjà acquise au travers du sacrifice de Jésus-Christ et de son œuvre accomplie. Vous savez, quand Jésus est sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Ça ne veut pas dire que tout accompli, maintenant c'est fait, c'est accompli. C'est-à-dire que tous ceux qui, par la foi, par ce moyen, cet instrument de la foi, c'est une image, acceptent Jésus-Christ, sont automatiquement revêtus de cet équipement du soldat. Parce que Christ en était revêtu et Christ, en ayant mort à la croix, nous en a lui-même revêtu. Encore faut-il le croire, et c'est ce que fait l'apôtre Paul quand il dit « Vous êtes dans l'unité, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous êtes revêtus de cette armure qui sont en réalité les attributs de Jésus-Christ, quand on y réfléchit. Cette ceinture de vérité qui nous tient droit et fidèle par rapport à la vérité. La cuirasse de justice qui protège notre cœur et ce casque du salut qui protège notre esprit. C'est une image, encore une fois. Les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile, témoigner dans notre comportement, ce bouclier de la foi qui nous protège, et cette épée de l'esprit, cette parole de Dieu que vous avez entre vos mains, et qui est pour nous cette proclamation que nous sommes enfants de Dieu, et que nous avons revêtu de cet équipement. Quelle gloire, chers frères et sœurs, quelle gloire de se dire « je suis revêtu ». Et uniquement par le moyen de la foi. Et il n'y a pas de fort et de faible. Tout le monde est inclus dans cet équipement. Encore faut-il le croire et s'en apercevoir. Et c'est ce que l'apôtre Paul va rappeler dans cet épître. Ainsi, revêtez-vous des armes de Dieu. C'est tout simplement, confiez-vous en Jésus-Christ. Apprenez à discerner que vous êtes ses enfants, que vous êtes bénis et protégés. Alors, vous avez cette liste non exhaustive, bien évidemment. Et tout simplement, vous avez ici les attributs de Dieu, les attributs de Jésus-Christ qui sont décrits. J'aime bien cette phrase, quand nous combattons dans la force de Dieu, c'est moins nous qui combattons que Dieu qui combat en nous. Et c'est pas seulement la force que Dieu fournit aux fidèles, mais la force que Dieu possède et déploie dans le fidèle au moyen de la foi. Cette force déployé. Alors maintenant que nous sommes heureux, Paul nous dit, voilà, dans le mauvais jour, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais tenir ferme. Et quelle est cette solution pour tenir ferme ? Revêtir les armes de Dieu au moyen de la foi, parce que nous les possédons au moyen de la foi. Maintenant, il est une caractéristique auquel Paul insiste particulièrement et qui désengage d'une certaine manière Dieu, mais qui nous engage en nous. C'est ce qu'il est dit dans Éphésiens 18, au verset 20, quand il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Waouh ! Revêtu de Christ, mais cette partie-là n'incombe pas à Christ, elle m'incombe à moi. Ma responsabilité, que quand je ne combats pas contre la chair et le sang et revêtu des armes du Christ, je vais combattre par l'Esprit, au moyen de la prière. Premièrement, ce que nous venons de lire, il y a à considérer plusieurs injonctions ou plusieurs faits importants dans tout ce que nous venons de lire. Et on notait d'ailleurs que Paul passe plus de temps à décrire le sujet de la prière plus qu'à décrire les armes d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que c'est là notre combat. Premièrement, nous sommes appelés à considérer dans ces versets le caractère continuel de notre relation avec lui, avec Jésus, en tout temps, continuellement. Deuxièmement, il nous invite à vivre ces temps de communion et d'intercession dans la grâce, par l'Esprit de Dieu. Troisièmement, cette relation-là que nous avons avec lui se manifeste par la communion, mais par différentes formes de communion, qu'elles soient par la demande, la supplication, l'intercession pour des frères et sœurs, également par la repentance, par toute autre forme de prière et de besoins spirituels qui forment le combat du chrétien pour tenir ferme dans le mauvais jour. Ensuite, quatrièmement, Paul souligne particulièrement pour les frères et sœurs dont sont destinés l'épître, c'est-à-dire nous, l'importance d'une assiduité dans la prière, la consécration, à prier pour tous les saints, c'est-à-dire pour tous ceux qui sont sanctifiés par la grâce de Jésus, et pour tous les frères et sœurs. Et je rajouterai ici, en tant que représentant de Portes Ouvertes, l'importance de prier pour les frères et sœurs persécutés auxquels je suis ici aujourd'hui. Et puis cinquièmement, ça fait beaucoup de choses, de la première, cinquièmement, à l'image de Paul lui-même, Paul nous dit qu'il est enchaîné, persécuté au moment même où il écrit cette épître. Et il demande à ce que l'on prie pour lui, pour une raison particulière, afin qu'il puisse continuer d'annoncer l'Évangile. Il n'agit pas et il ne demande pas à ce qu'on prie pour lui pour qu'il soit libéré de sa prison. Mais il dit, priez pour moi pour que dans ma situation où Dieu m'a placé, je puisse annoncer l'Évangile. Et une des valeurs de Portes Ouvertes, justement, c'est que nous soutenons l'Église persécutée sur le terrain de la persécution pour qu'elle puisse continuer à être lumière et sel de la terre. Vous avez ici frère André qui est connu comme le contrebandier de Dieu et qui a livré des Bibles en contrebande. Il dit d'ailleurs qu'en 20 ans, pas une seule fois il s'est fait arrêter, pas une seule fois il a perdu une Bible. Et il dit cette vérité fondamentale que je vous lis ici, la parole de Dieu transforme les gens et les gens transformés transforment les situations autour d'eux. Cette dispensation d'annoncer la parole de Dieu pour que les gens soient transformés par elle et qu'en étant transformés, ils transforment leur situation. Et on est complètement dans cette idée de ne pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et comment on lutte au travers de la prière ? Par la dispensation de la parole de Dieu qui donne la vérité, qui nous permet d'avoir cette ceinture, cette justice, cette cuirasse. Au travers de cette singularité, Paul insiste non pas seulement sur l'équipement dont nous avons été revêtus, comme je viens de vous le dire, mais sur notre caractère, notre attitude qui découle de ce revêtement en Christ. Autrement dit, vous ne pouvez pas prier et lutter si nous ne nous revêtons pas de cette armure au travers de la foi, au travers des attributs de Jésus-Christ. C'est le combat de la prière contre les dénominations, les autorités, mais également le pardon de notre prochain. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, Payang et Lavi ont pardonné aux grands-parents. Et je dois quand même vous avouer que vu la situation de souffrance, vu la trahison horrible et vu les conséquences, humainement, charnellement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais pourtant, c'est un combat. Et je vous dis que vaincre l'ennemi dans notre propre combat, c'est aussi accorder son pardon à ceux qui nous ont offensés, au même titre que Christ nous a pardonné à la croix de nos ignominies, de notre péché.
Nous sommes donc appelés à portes ouvertes, à pouvoir représenter ces valeurs. L'Église persécutée, elle vit dans le combat. Et bien sûr, des frères et sœurs ont envie de combattre contre la chair et le sang. Mais beaucoup ne le font pas, heureusement. Et beaucoup ont compris la dimension spirituelle. Et donc, nous sommes appelés dans ce ministère à soutenir les frères et sœurs pour qu'ils puissent continuer d'annoncer l'Évangile. Parce que nous ne sommes pas contre, mais nous sommes pour que Jésus aille toucher les cœurs. Et ici, vous avez l'animation, difficilement visualisable, mais dans lequel vous avez l'évolution de la persécution. Alors, on devine mal, mais normalement ici, c'est du jaune encore, c'est du jaune. Et vous allez voir comment ça prend de la propension un peu partout dans le monde, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, où c'est entièrement rouge, hein, pratiquement. Voilà. Donc vous avez ici l'évolution de la persécution, qui non seulement augmente en intensité, de plus en plus forte, mais en plus prend aussi en espace, hein, concerne de plus en plus de pays. Il y a 10 ans, on était à 60 pays, aujourd'hui on est à plus de 70-75 pays qui sont concernés par la persécution des chrétiens. David, notre frère amérindien, nous dira la chose suivante au sujet du combat spirituel, que la prière valent mieux que tout, et il précise, valent mieux que toute aide matérielle. Alors bien sûr, l'aide matérielle, c'est une chose très importante pour soutenir les frères et sœurs persécutés, mais dans le contexte de David, dans son combat contre ses principautés, ses dominations spirituelles, contre les esprits des anciens, au travers de la foi et au travers de la prière, il appelle, comme Paul, à prier pour lui, à prier pour ses frères et sœurs, pour que nous puissions se joindre avec lui et avec tous les frères et sœurs persécutés, à les aider à combattre ce bon combat de la foi dans le mauvais jour, pour tenir ferme, pour glorifier le Christ et annoncer au travers de ce revêtement de Christ toute sa gloire et à quel point l'être humain a besoin. David était destiné à être un mammos, était destiné à être un persécuteur, mais le Seigneur l'a repris et l'a amené à être un serviteur de Dieu. Nous rappelons ici que l'apôtre Paul fut aussi un persécuteur, un grave persécuteur, rempli de légalistes, mais que le Seigneur a touché et en a fait un serviteur et un persécuté. Alors nous avons différents champs d'action au travers de portes ouvertes. Bien sûr, nous pouvons les lire. Développement socio-économique pour que les frères et sœurs puissent être encouragés. Formation biblique, soins post-traumatiques. Également distribution de Bibles de ressources chrétiennes, recherche et plaidoyer national, dans lequel nous appelons aussi les politiques à pouvoir se soucier des frères et sœurs persécutés. Et puis vous avez la présence et la prière qui est importante. Et c'est ma vocation ici parmi vous de vous encourager à prier pour l'Église persécutée. Si vous n'êtes toujours pas encore abonné, je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes abonnés, vous pouvez vous abonner au magazine de Portes Ouvertes dans lequel vous avez toute l'actualité, les articles récents, le calendrier de prière pour prier pour un jour, un sujet de prière. Si vous n'êtes pas encore équipé de ce magazine, je vous invite tout simplement à le prendre. C'est aussi un bon outil pour rester informé et prier efficacement pour les frères et sœurs persécutés. Là aussi, ce combat, les aider à tenir ferme, mais aussi pour pouvoir vous encourager dans vos propres combats vous-même. Et puis, je voudrais aussi appeler à ce ministère, ministère Portes Ouvertes Antennes, qui va bientôt être rebaptisé, dans lequel nous cherchons dans les églises des porte-paroles de l'église persécutée, dans lequel nous cherchons des personnes qui auraient un cœur pour cette église et qui auraient envie, avec l'autorisation des responsables d'église et des anciens, des pasteurs, qui auraient envie régulièrement de communiquer de l'actualité sur les frères et sœurs persécutés pour tenir l'église informée de ce qui se passe et pour pouvoir rester sur la brèche de la prière et du combat spirituel. Au travers de cette unité que je parlais, au travers de ces mauvais jours, au travers de cette idée de tenir ferme, puisque nous sommes tous revêtus du Christ, mais dans lequel Paul et notre Seigneur Jésus-Christ nous appellent à prier intensément. Donc, si jamais, n'hésitez pas à venir m'en parler, à en parler à vos anciens. Tout se fait en règle, avec ordre, bien évidemment. Ce n'est pas une décision personnelle, c'est une décision collective avec les responsables d'église. J'aimerais terminer en vous citant ce témoignage de Mina Krajavi, iranienne, qui a plus de 60 ans au moment de la photographie. Et vous voyez la délicatesse de son état physique en déambulateur. Elle a été accusée de rassemblement privé d'église. Donc elle a été accusée de seulement d'appartenir à une église de maison qui se cachait. Et elle a été condamnée à 6 ans de prison juste parce qu'elle a fait partie d'un groupe de maison. Et elle a été considérée par les autorités iraniennes d'être la leader de ce groupe de maison. Or, si vous voyez la faiblesse de son état physique, condamnée à 6 ans de prison, elle a effectivement fait 2 ans de prison, mais dans ces conditions de détention déjà très compliquées, pour accentuer encore plus la discrimination, ils ont placé Mina Krajavi dans un lit superposé au deuxième étage. Un déambulateur, et tous les matins, montée, a-t-elle de l'aide? A-t-elle quelqu'un pour l'aider? Est-elle toute seule dans ce périple pour le faire? Et donc, vous voyez comme quoi on a accentué sa souffrance au travers de cela. Nous avons fait un plaidoyer auprès d'elle. Nous avons appelé à prier pour elle. Nous avons même fait une pétition que nous avons envoyée à la bassine iranienne. Et gloire à Dieu, le Seigneur répond aux prières. Elle a été libérée de la prison en octobre dernier. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour cela. Oui, les prières agissant du juste ont une grande efficacité, dit l'apôtre Jacques. Oui, nous l'avons remis en prière pour qu'elle soit libérée, et elle a été libérée. Maintenant, notre combat, et vous voyez actuellement l'actualité en Iran de ce qui se passe, prions, ça peut être une bonne nouvelle, comme ça peut être une mauvaise nouvelle pour les chrétiens, mais prions intensément pour que vraiment le Seigneur souffle sur ce pays, et protège et fasse exploser l'évangile, parce que l'évangile depuis plus de 10 ans est en train d'exploser en Iran, et nous pensons que ce qui se passe est aussi la raison de cela. Gloire à Dieu. Alors je voudrais vous remercier pour cette écoute et je voudrais qu'on puisse prier maintenant. Je propose simplement, je vais introduire par une prière, et puis si certains veulent aussi prier, vous pouvez, et je vous invite à incliner vos têtes. Et nous prions, nous disons merci Seigneur Jésus pour toute ta grâce et ta bienveillance. Nous nous sommes rappelés tout à l'heure pendant la louange, pendant ce temps de célébration, à quel point tu es grand, tu es merveilleux, à quel point nous pouvons nous réfugier en toi. Et nous sommes heureux de voir que ta parole a dispensé de bonnes informations. Quand nous reprenons Éphésiens 6, Seigneur, il est vrai que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais ce combat se passe dans cette chair et dans ce sang. Te prions, Seigneur, de nous animer de cet esprit de prière pour pouvoir prier, intercéder pour nos propres vies, mais aussi la vie de nos frères et sœurs, quels qu'ils soient. Te prions, Seigneur, que dans le mauvais jour, tu nous apprennes à tenir ferme parce que tu nous as revêtus, Seigneur, de tes armes spirituelles, qui sont les attributs de Christ. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous tenir fermement attachés à toi et que en tout temps, par toute forme de prière, avec insistance, persévérance, nous puissions prier pour tous les saints, toutes les personnes sauvées. Que nous puissions te recommander nos frères et sœurs. Nous te bénissons pour David, qui a choisi le chemin de la vie, mais qui est persécuté par ses esprits. Nous te prions, Seigneur, pour Payang et la vie, que tu as inspiré de tenir ferme, mais aussi de prier et de pardonner à ses agresseurs, à ses persécuteurs qui sont leurs propres parents. Nous te remercions, Seigneur, d'accorder à David non pas l'importance du matériel, mais l'importance de la prière. Merci Seigneur pour Mina, qui a été enfermée dans d'horribles circonstances, mais qu'aujourd'hui tu as libérée parce que tu as écouté nos prières et parce que tu as béni notre mobilisation, notre plaidoyer pour qu'elle soit libérée à son âge. Seigneur, au travers de ces témoignages, nous pouvons nous attendre à toi dans nos défis personnels. Au travers de ces témoignages, nous pouvons tenir ferme face à l'actualité qui parfois nous mettrait en colère, qui parfois nous donnerait de parler mal, de juger, de condamner. Mais que Seigneur, plus que jamais, tu nous tiennes dans ta grâce d'amour, par ce moyen gratuit de la foi, dans lequel nous pouvons confesser ce Dieu. Parce que Seigneur, nous avons une espérance, un héritage qui ne peut se corrompre, se flétrir et se souiller. Et c'est là notre ancrage et c'est là notre regard porté sur cette espérance. Nous sommes des représentants sur la terre, oui, parce que nous savons aussi que nous te rejoindrons dans une paix et une vie éternelle, dans tout ce que cela comprend.
Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, car aujourd'hui c'est un jour de gloire comme tous les autres jours. Mais nous sommes ici en communion, en unité, pour te recommander nos frères et sœurs qui sont persécutés et te prier, te demander de les fortifier et de continuer à voir ta gloire au travers du magazine de Portes Ouvertes. Suscite, Seigneur, des intercesseurs pour prier pour l'Église persécutée. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Seigneur, je prie vraiment que ces paroles soient des paroles que nous vivions, Seigneur, chaque jour. Que devant l'adversité, Seigneur, les murs qui peuvent se lever, oui, Seigneur, nous puissions élever nos voix et déclarer, je chante gloire à l'Éternel, je chante en honneur de ton nom, Seigneur. Nous ne puissions pas avoir peur, nous ne puissions pas baisser les bras, mais que nous puissions vraiment proclamer, déclarer ta puissance. Déclarer ce Dieu que tu es, Seigneur, pas seulement dans les beaux jours, Seigneur, mais surtout dans les mauvais. Nous ne puissions pas laisser l'ennemi, Seigneur, trouver la brèche. Nous ne puissions pas, Seigneur, douter que nous ne sommes pas revêtus de cette armure que tu nous as donnée, Seigneur. Mais que nous puissions, Seigneur, nous confier en toi pleinement. Père, je te remercie pour la vie, Seigneur, de mon frère Payang, de la vie, Seigneur, de David, de notre dernière sœur Kramaji, Seigneur Père, pour ces témoignages qui sont des témoignages si puissants, Père. Je te remercie parce que, Seigneur Père, à travers ce témoignage que eux, ils donnent, Seigneur, ton nom est proclamé. Oui, Seigneur, ils le déclarent, je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tous mes frères et sœurs qui, partout dans ce monde, Seigneur, se trouvent dans des situations où ils ne peuvent proclamer ton nom de manière libre. Seigneur, vraiment que tu puisses intervenir dans chaque situation par ta puissante main. Et qu'à travers, Seigneur, le témoignage, la persévérance, Seigneur, Père éternel, leurs persécuteurs puissent être touchés, transformés. Vraiment, Seigneur, je prie que les cœurs soient bouleversés par ta puissance et ton amour. Bouleversés, Seigneur Père éternel, par ton sacrifice à la croix, de ce que tu as déjà tout accompli, Seigneur. Vraiment, merci infiniment, Seigneur, et je te prie de garder chacun de mes frères et sœurs. De pouvoir, Seigneur, par ton infinie miséricorde à chacun dans leurs besoins. De les soutenir, Seigneur, dans les moments de grande souffrance et de persécution. Qu'ils puissent sentir ton amour, qu'ils puissent se sentir couverts, Seigneur, par toi. Père, et soutenus, Seigneur, par toi. Et que nous puissions, Seigneur, à travers ces témoignages, Seigneur, nous encourager. Levez les yeux, Seigneur, et ne pas marcher tête baissée, mais levez les yeux et proclamez. Seigneur, ce Dieu puissant que tu es, glorifié soit ton saint nom, Seigneur. Je prie que dans ton Église, tu puisses lever, Seigneur, des serviteurs. Levez, Seigneur Père éternel, ton peuple à déclarer, à proclamer, à évangéliser ton saint et puissant nom, Seigneur. Amen.
Toi, Seigneur, merci pour le ministère de Portes Ouvertes, Seigneur. Bénis ce ministère, Seigneur. Et Seigneur, merci pour le rappel ce matin, cette parole merveilleuse et puissante, si forte, Seigneur. Il y a tout dans ta parole, Seigneur. Merci pour ce qui nous a été rappelé. Merci de nous rappeler l'attitude que nous devons avoir, Seigneur. Merci pour nous rappeler ce qui est de toi et ce qui est de nous, là où nous devons agir, Seigneur. Merci de renouveler notre confiance en toi, de fortifier notre foi et de nous aider à faire notre part, Seigneur. Notre part de Seigneur, nous nourrir de ta parole, notre part de prier, Seigneur, notre part d'intercéder. Oui, Seigneur, que nous puissions suivre ton modèle, Jésus. Tu es l'intercesseur auprès du Père et nous sommes les intercesseurs, Seigneur, entre nous. Nous devons t'amener, Seigneur. par notre prière, Seigneur, ceux d'entre nous qui en ont besoin, ceux qui souffrent en particulier, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être sauvés, Seigneur, car le plus important, Seigneur, c'est d'être sauvés de cette perdition qui est la nôtre, Seigneur, dans notre condition humaine. Oui, Seigneur, fais grandir ton royaume, Seigneur. Merci pour toutes ces conversions, Seigneur, dans ces milieux même hostiles, Seigneur. On voit ta main puissante, Seigneur. Merci pour ces encouragements. Merci, Seigneur, de faire fléchir, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, de faire s'incliner ceux qui sont le plus contre toi. Parce que des fois, ceux qui sont le plus contre toi se tournent radicalement, Seigneur. Oui, Seigneur, que le mal, Seigneur, s'incline, Seigneur, devant ta force et ta puissance. Merci pour tous ces encouragements, Seigneur. Suscite en nous, Seigneur, qui sommes dans les milieux privilégiés, Seigneur. Seigneur, dans cette grâce que tu nous as fait d'être nés ici et maintenant, Seigneur, donne-nous de pouvoir prier, Seigneur, et ne pas le faire aujourd'hui simplement, Seigneur, mais de nous renouveler cet état d'esprit, Seigneur, d'être en union et en force dans la prière, Seigneur. Car tu nous encourages à prier, c'est l'arme que tu m'as donnée, l'arme suprême, Seigneur, cette adresse, nos supplications et nos prières. Oui, Seigneur, bénis nos frères et sœurs dans les milieux hostiles dans lesquels ils sont, Seigneur. Que ce soit toi, Seigneur, qui soit dans ces maisons, qui soit toi, qui soit dans ces pays, Seigneur, que tu interpelles, Seigneur, ta puissance. Merci.
Ton Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour tes promesses parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons ce matin te prier particulièrement pour les jeunes enfants, pour les adolescents et les jeunes adultes qui nous croient en toi, qui sont persécutés à cause de ta parole, qui se retrouvent seuls aussi, qui n'ont pas d'amis. Nous demandons au Seigneur de renouveler leur force, la force de tenir en toi, Seigneur. Et nous sommes confiants parce que tu ne vas pas les abandonner, parce que tu seras auprès d'eux, Seigneur, dans toute la marche de leur vie, dans toute la marche avec toi. Seigneur, bénis ces jeunes enfants, ces adultes, ces adolescents. Et nous te prions pour que tu leur donnes de la joie dans cette persécution aussi, la force de tenir, la force de t'aimer. Seigneur, nous comptons sur toi, sur tes saints anges aussi, pour venir les secourir. Bénis tous ces enfants qui sont dans les pays persécutés. Nous t'en prions, Seigneur. Amen.
Et Seigneur, nous voulons te prier pour les persécutés, chacun individuellement. Certains parmi eux ont témoigné qu'ils pensent avoir souffert plus que Christ dans leur persécution. Qu'ils puissent se revêtir de ton armure, Seigneur. Nous voulons te prier pour les persécuteurs, que tu transformes radicalement leur vie. Tu nous as laissé cet exemple de Paul. Et il faut que ça soit toi qui viennes dire à Paul pourquoi me persécutes-tu, et échanger son cœur, Seigneur. Et ce persécuteur est devenu persécuté, et nous pouvons encore, par ses paroles, entendre ta grâce plus de 20 siècles après, Seigneur.